Alors bonjour à chacun. Ce matin, on va aborder un sujet qui nous a été demandé lors de nos rencontres d'église. En fait, c'est le sujet du jeûne. Alors c'est un peu bizarre de faire le sujet du jeûne alors que juste après le culte, on va avoir une agape. Mais c'est au moins pour forcer personne. Donc on veut prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que le jeûne en fait? Comment la Bible nous en parle? Et pour que chacun prenne ça comme réflexion chez lui, voir comment le vivre. Mais c'est vrai qu'on prend le temps un peu de regarder autour de nous. Le jeûne n'est pas seulement une discipline qu'on trouve dans la Bible. Alors clairement, d'autres religions pratiquent le jeûne. On voit cela durant le mois du Ramadan chez les musulmans. Mais aussi, depuis quelques années, on entend de plus en plus parler aussi de jeûne thérapeutique. Et en fait, c'est pas mal étudié. J'ai pu regarder des petites vidéos là-dessus. Où, depuis une cinquantaine d'années, c'est un traitement qui se veut pour lutter sans médicaments contre des maladies assez graves, même en fait le cancer, entre autres. Et le jeûne est parfois aussi pratiqué pour d'autres choses, comme pour maigrir ou pour purifier le corps de ses toxines. Donc, il y a différentes personnes autour de nous qui parlent du jeûne, qui cherchent à faire un jeûne. Mais ce qu'on veut voir ce matin, c'est dans notre relation à Dieu, qu'est-ce que le jeûne en fait? Comment la Bible en parle et que comprendre pour nous encore aujourd'hui? Pourquoi jeûner? Est-ce que c'est une question de santé, une question de gain de puissance? Et aussi, quand jeûner? Donc, on va regarder plein de passages bibliques aujourd'hui, pas trop en profondeur, j'avoue, on va parcourir plusieurs passages et plus un, regarder un peu plus en détail. Mais voilà un peu le plan de ce qu'on va voir ce matin. Le premier point, c'est pas grave, ce sera regarder en fait qu'on a un seul ordre en fait dans toute la Bible. Je te laisse mettre le diaporama si tu veux bien. Parce qu'en fait, je vais mettre des passages parce que sinon, je vais vous faire tourner dans tous les ordres. Hop, voilà, ça c'est le menu du matin, de ce matin. Ah non, voilà. Donc un seul ordre, c'est le jour du Yom Kippour qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Plusieurs occasions après dans l'Ancien Testament, mais sans ordre. Et puis on va voir ce qu'en dit Jésus et comment l'a vécu l'Église primitive. Et ce qui va nous intéresser un peu plus longtemps, c'est la question de jeûne et délivrance. Et puis après, les attitudes extérieures. Et au travers de tout cela, qu'est-ce qu'on en retire pour nous aujourd'hui? Comment le vivre aujourd'hui selon la volonté de Dieu dans notre relation avec Dieu? Donc première chose qu'on voit ensemble, hop, c'est le premier point, un seul ordre, donc le jour du Yom Kippour. En fait, si on regarde le terme jeûner, on le trouve 47 fois dans l'Ancien Testament et 31 fois dans le Nouveau Testament. Et sur ces 78 fois, il n'y a juste aucun ordre. Aucun ordre avec le terme de jeûner. Il n'y a pas d'impératif en tant que croyant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament à jeûner. Mais plutôt un ensemble de descriptions de faits. La manière dont les hommes et les femmes ont agi à un moment donné par rapport à une circonstance particulière. Mais on a un autre terme qui est utilisé où là, il y a vraiment cet ordre. Et c'est donc ce jour du Yom Kippour. Voici le texte qu'on trouve notamment donc dans le Lévitique. C'est ici pour vous une prescription perpétuelle. Au septième mois, le 10 du mois, vous humilierez vos âmes. Donc voilà l'ordre que l'on trouve, l'impératif. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui réside au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié. Et vous humilierez vos âmes. C'est une prescription perpétuelle. Donc nous sommes ici dans l'instauration du Yom Kippour, donc le jour des expiations, le jour du grand pardon. C'est le seul jour dans l'année, en fait, où le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints et apporte un sacrifice sanglant, apporte le sang pour le pardon des péchés. Et durant cette journée, en fait, les Israélites ne se rassemblaient pas. Chacun restait chez soi, mais on ne travaillait pas, on ne faisait pas d'activité, mais on adoptait une attitude d'humilité. C'était un jour, en fait, où on se rappelait que pour que je puisse être pardonné, quelqu'un doit mourir. Pour que ma faute soit couverte, et c'est de cela que c'est ce terme-là qui exprime le kippour, donc le fait d'être couvert, que notre péché soit couvert et donc pardonné par Dieu, on a besoin que quelqu'un prenne notre place. Donc on vit pleinement dans la dépendance de l'action de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc plus que de travailler, c'est pour ça qu'on ne travaille pas, plus que de la santé, et c'est pour ça que même on ne va pas manger, c'est pas ça qui compte. En fait, il y a quelque chose que je dois me rappeler qui est encore plus important et même plus vital pour moi. Plus vital que la nourriture, plus vital que mon travail, c'est le pardon. Pour vivre aujourd'hui, j'ai besoin de pardon. Et très rapidement, dans l'instauration du peuple, avec les lois, comme on le voit dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament, Dieu nous oriente vers ce grand besoin humain, ce besoin du pardon. Mais ce pardon, ce Yom Kippour, ce sacrifice, cette humiliation à faire année après année, et justement à faire année après année, pardon. Donc, ça ne suffit pas. Parce que pour les années prochaines, j'ai encore besoin que quelqu'un d'autre meure. Et encore une fois, que quelqu'un d'autre meure. Et encore une fois, que quelqu'un d'autre meure. Et ça, année après année. Autrement dit, le sang d'un animal ne suffit pas. Et quelque part, Dieu est en train de nous frustrer ici. Mais d'une bonne frustration, d'une sainte frustration quelque part. En train de nous instruire, ce que moi je fais ne suffit pas. J'ai besoin d'une intervention beaucoup plus grande, d'une intervention beaucoup plus magistrale. Mais je ne peux pas. Je peux donner toutes mes bêtes, je peux jeûner toute l'année et je serai mal. Ça ne sert à rien, ça ne suffit pas. J'ai besoin que Dieu intervienne pour moi. Et au travers de cela, déjà l'Ancien Testament nous oriente ainsi vers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui sera, lui, l'ultime souverain sacrificateur, qui va pouvoir entrer dans le lieu saint, le lieu très saint plutôt, à notre place, et qui sera, lui, l'ultime sacrifice. Cette fois, ce n'est plus un animal qui va mourir à ma place. Mais à cause de la gravité de mon péché, c'est un homme qui va mourir à ma place. Et pour qu'un homme soit parfait, c'est personne de moins que mon Créateur qui s'offre à ma place. Donc le Yom Kippour, ce temps d'humilité, nous ramène à cela. Voilà mon grand besoin, seul temps où un jeûne est ordonné. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Parce que ça a été réalisé en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc cette loi aujourd'hui n'a plus de valeur en tant que rite. Il n'y a plus besoin de l'accomplir en tant que croyant parce que l'ultime Yom Kippour a été accompli. On n'en annonce pas un plus grand. Mais cette loi a encore de l'importance en tant qu'enseignement, qui nous rappelle, Philippe, aujourd'hui, si tu vis, c'est parce que quelqu'un est mort à ta place. Et ça doit t'amener à l'humilité. Tu ne vis pas par tes propres forces, mais tu vis par la grâce de Dieu. Tu as besoin du pardon. Rappelle-toi régulièrement du pardon et humilie-toi devant Dieu qui t'a accordé ce pardon en en payant le prix. À côté donc de cet ordre, on trouve plusieurs occasions dans l'Ancien Testament. On a différentes occasions, je peux vous donner la liste des textes si vous désirez vous-même les étudier, mais je vous donne quelques exemples pour voir l'enseignement qu'on peut encore en tirer pour nous aujourd'hui. On a des jeûnes qui sont accomplis dans l'Ancien Testament en souvenir de catastrophes nationales. Par exemple, souvenir de la destruction du Temple ou de Jérusalem. Et occasion que Dieu reprendra lorsque le Temple commencera à être rebâti du temps de Zacharie. Voilà ce que Dieu dit au travers du prophète Zacharie. « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pris le deuil au cinquième et au septième mois, cela depuis 70 ans. Est-ce vraiment pour moi que vous avez tant jeûné ? En fait, le peuple était allé voir Zacharie pour dire, demande à Dieu si on a encore besoin de jeûner. Parce qu'on jeûne parce que le temple a été détruit, mais maintenant qu'on est en train de le reconstruire, est-ce qu'on a encore besoin de jeûner ? Et Dieu pose cette question, est-ce que c'est vraiment pour moi que vous avez jeûné ? Et en fait, Dieu est en train de reprendre son peuple ici, parce que ce qui devait être une humiliation volontaire, en souvenir de la destruction du temple et de Jérusalem, à cause de notre péché, à cause de notre rébellion, parce que Dieu, rien à faire, on veut faire ce qu'on veut, et à cause de cela, il y a eu ces catastrophes-là, Dieu est en train de dire, c'est pas en fonction de ça que vous vous humiliez. Votre humiliation, votre jeûne est devenu avec le temps une marque de patriotisme, une fierté nationale pour dire qui vous êtes et qui vous êtes en opposition aux autres. Et donc, ce n'est pas du tout pour moi. Et au travers de cela, on peut retirer le principe suivant, c'est la question, pourquoi voulons-nous jeûner ? Ou quand nous jeûnons, pourquoi jeûnons-nous ? Est-ce que nous jeûnons pour Dieu ? Pour rechercher Dieu, pour nous humilier devant Dieu, pour prendre du temps avec Dieu, ou nous jeûnons pour une autre raison, pour nous montrer à quel point nous sommes spirituels aux autres, pour nous montrer à quel point nous sommes bien, ou peut-être simplement pour faire un régime, ou pour notre question de bien-être ou de santé. Autrement dit, Dieu n'accepte pas tous les jeûnes. C'est pas parce qu'on jeûne que Dieu va l'accepter. Mais il est nécessaire de réfléchir à notre motivation. Pourquoi jeûnons-nous ? Autre occasion qu'on trouve dans des temps de repentance, nous avons notamment ici le temps où, du temps du prophète Samuel, le peuple revient à Dieu et Samuel leur dit aussi « Débarrassez-vous de vos idoles. Si vous revenez vraiment à Dieu, jetez toutes vos idoles et revenez à Dieu. » Et le peuple marque cela, ce rejet des idoles, ce rejet de tout leur culte autre, contraire à Dieu, par un jeûne et la repentance. Ça peut être un cas de deuil, où ici, c'est dans 2 Samuel 1,12, c'est suite au décès de Saül et au décès de Jonathan et Israël qui a été défait. David se lamente et David marque le deuil et le jeûne tellement il est triste que même son ennemi soit mort. Autre difficulté particulière comme la maladie, il y a un temps de jeûne, l'écrasement du peuple, alors que le peuple, Joël 2,15, est écrasé, mis à mal par une armée étrangère, il s'humilie et prend un temps de jeûne. La supplication aussi, face au danger, nous avons les différents passages d'Esther où elle demande à tous les juifs de la ville de s'humilier, de prier et de jeûner pour demander le secours de Dieu face à Naaman qui veut mettre à mort tous les juifs. Et elle sait qu'en allant dans la chambre du roi ou dans la salle du trône plutôt, elle risque d'être mise à mort. Et elle demande « Intercédez pour moi, intervenez, on va supplier Dieu qu'il nous laisse en vie. » Temps de tristesse aussi. Et là, c'est notamment Néhémie qui apprend que la muraille est toujours à terre. Ouais. Donc, différentes occasions que nous présente l'Ancien Testament. Et au travers de cela, en fait, on apprend que le jeûne peut être collectif ou individuel. Il n'a pas toujours besoin d'être collectif. Il n'a pas toujours besoin d'être individuel. Et il peut être fait aussi en faveur de la personne qui jeûne ou en faveur d'une autre personne. On trouve aussi des passages parfois plus durs, comme celui-ci dans le prophète Jérémie. S'il jeûne, et c'est Dieu qui parle encore une fois au travers du prophète Jérémie, s'il jeûne, je n'écouterai point leurs cris de détresse. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai point, car je veux les achever par l'épée, par la famine et par la paix. C'est un texte qui est extrêmement dur, n'est-ce pas ? Et on se dit, mais pourquoi Dieu réagit comme ça ? Et en fait, ce texte est à bien sûr à prendre dans son contexte, où Dieu ne rejette pas le jeûne, ni la repentance, Mais Dieu est en train ici de condamner le peuple à cause de leur attitude. Sous couvert de spiritualité, et notamment le jeûne, ils vivent complètement à l'encontre de Dieu. Et ça s'exprime notamment par le vol, par l'injustice, par les adultères et par toutes sortes de rébellions et d'idolâtrie qu'on trouve au milieu du peuple qui jeûne ou qui va rendre son culte à Dieu au temple. Et Dieu dit, ça non. Dieu, l'expression n'est peut-être pas très belle, mais Dieu n'est pas un chien qui secoue la queue quand on lui donne ce qu'il a envie, qu'on lui donne une petite friandise. D'accord ? Dieu est Dieu. Dieu est saint et Dieu sait très bien ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il veut une vraie relation. C'est pas juste, je fais un petit truc pour te faire plaisir et je fais ce que je veux à côté. Dieu dit, si tu fais ton petit truc et tu fais ce que tu veux à côté, en fait, je ne suis pas ton Dieu. En fait, tu n'as pas de relation avec moi. Ton jeûne, il n'a aucune valeur. Ta prière n'a aucune valeur. Le fait que tu ailles à l'église n'a aucune valeur. Si à côté de ça, c'est pour être pleinement hypocrite et faire ce que tu veux. Parce que le jeûne n'est pas une manière de manipuler Dieu. Ce n'est pas parce que nous jeûnons que nous aurons ce que nous demandons. Et là, on doit prendre encore l'exemple, par exemple, de David aussi, qui, suite à son adultère avec Bathsheba s'est retrouvée enceinte, elle a accouché d'un fils, et Dieu avait dit « Je punirai ta faute ». Et une des manières, c'est que le fils va mourir. Et David a jeûné. Mais Dieu a dit, ta faute est grave. Et Dieu n'est pas revenu dessus. Le fils est mort. Ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on a ce qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on force la main de Dieu ou qu'on manipule Dieu. Ce n'est pas une manière de faire un bras de fer avec Dieu le jeûne. Et ce qui est vrai pour le jeûne, en fait, est vrai pour toute discipline de la vie chrétienne, de la relation avec Dieu. Jamais une manipulation, jamais un bras de fer, une manière de forcer la main de Dieu. Et donc, au travers de ces différentes occasions, ce qu'on voit, c'est que le jeûne, en fait, à nouveau, comme pour le Yom Kippour, est une manière d'exprimer notre dépendance à Dieu. Je dépends de Dieu pour le pardon. Mais face au danger, je dépends de Dieu. C'est lui qui a toute chose dans sa main. Face à une difficulté dans la vie du peuple ou dans la vie personnelle, que ça peut être la stérilité, que ça peut être la maladie ou autre, je dépends de Dieu. Et au travers du jeûne, je ne force pas la main de Dieu, mais j'exprime à Dieu ma dépendance. Je n'ai pas besoin de manger, j'ai besoin de toi. J'ai pas besoin de mon confort, j'ai besoin de toi dans ma vie. Donc manière d'exprimer notre dépendance et quelque part, au travers de cela, manière de nous instruire nous-mêmes. Je me rappelle, en me privant de choses qui me font du bien, que mon plus grand bien, c'est Dieu. Et qu'aujourd'hui, pour vivre avec lui, j'ai besoin de lui. Quelques paroles. Ah ouais. Ça c'était Ésaïe 58, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Encore une fois, où le peuple manipule Dieu par toutes ces disciplines de croyants. Mais bon, on a pu voir ça un peu avec Jérémie. Les paroles de Jésus-Christ et les pratiques de l'Église primitive. Donc, dans le Nouveau Testament, les textes sont encore moins nombreux que dans l'Ancien Testament. Et ils parlent surtout du jeûne dans le cadre de la piété juive. Comme par exemple lorsque les chefs religieux vont voir Jésus-Christ avec les disciples de Jean-Baptiste pour lui demander pourquoi les disciples des pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et pas les disciples de Jésus. Et Jésus ne laisse pas penser là que le jeûne est quelque chose pour avant, que maintenant on n'en a plus besoin. Au contraire, il leur dira « le temps vient où ils jeûneront ». Le temps vient où, en fait, l'époux, qui est Jésus-Christ, ne sera plus présent et alors ils jeûneront. Donc, c'est quelque chose de présent pour les disciples de Jésus-Christ. Et voilà comment l'Église l'a pratiqué. En fait, on trouve notamment deux occasions dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, encore une fois, on n'est pas face à un ordre, mais face à une pratique de la vie de l'Église. On voit qu'ils jeûnaient, quelque chose d'assez habituel, a priori, au moins parmi les responsables. Mais on voit aussi que, au moins les responsables, et certainement l'Église, en fait, pour envoyer, pour remettre, pour confier les missionnaires qui vont partir pour annoncer la parole de Dieu, pour apporter l'Évangile ailleurs, l'Église se réunit pour jeûner, pour confier à Dieu ses envoyés, afin que Dieu puisse en prendre soin et les aider dans la tâche qu'il leur a confiée. On voit cela aussi un chapitre plus loin, quand, alors que les églises de Galatie ont été établies, Paul, avec Barnabas, établit des anciens. Et voilà ce qu'on lit. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc remarquons que l'église ne jeûne pas ici pour connaître la volonté de Dieu, pour avoir une révélation particulière. Mais elle jeûne après le choix de Dieu ou après l'établissement des anciens par Paul, Barnabas et l'ensemble de l'Église pour les recommander à Dieu, pour que Dieu les conduise encore une fois dans leur tâche de prendre soin de l'Église ou alors d'apporter la parole ailleurs. Et ce qui est intéressant, et c'est vrai que moi ça me reprend, en lien notamment au fait qu'on a mis un nouvel ancien en place, c'est que l'Église prend du temps pour dire « voilà ce qu'on a besoin en tant qu'Église ». En tant qu'Église, on va se réunir pour dire « on n'a pas besoin de manger ». Ce n'est pas ça notre vrai besoin. En tant qu'Église, on va se réunir, on va jeûner, parce que notre vrai besoin, c'est d'être conduit par Dieu et que sa parole prospère en notre milieu et que sa parole prospère dans le monde par ce qu'on envoie. Et quelque part, là, ça me reprend, en me disant « mais et nous ?» Alors, ok, il n'y a pas d'ordre, mais c'est une réflexion, je me dis peut-être juste à avoir. Qu'est-ce qu'on veut exprimer en tant qu'Église? Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce qu'on veut remettre la centralité de la parole de Dieu aussi dans notre manière de l'exprimer en disant à Dieu, voilà, on veut prendre un temps pour jeûner, pour prier pour nos responsables qui viennent d'être choisis par l'Église, mis en place par l'Église, et pour te demander, conduis-les, aide-les à être attachés à ta parole et pour nous conduire dans ta parole. Ou pour les missionnaires qui vont partir aussi, voilà ce que les peuples ont besoin. Ils ont aussi besoin, nos missionnaires, d'être attachés à toi, fixés à ta parole, pour qu'ils puissent annoncer à ta parole, pour que d'autres puissent se convertir. Voilà ce que nous avons besoin en tant qu'Église locale. Voilà ce que le monde a besoin. Pas besoin de manger, pas besoin de confort. Le vrai besoin, la parole de Dieu pour le salut. Réflexion que je nous laisse à avoir. Mais encore une fois, au travers de tout cela, c'est encore une fois expression pleinement de la dépendance de Dieu. Je dépends de Dieu pour mon pardon. Je dépends de Dieu pour les différentes occasions de ma vie, qu'elles soient heureuses ou plutôt difficiles, c'était le cas de l'Ancien Testament. Et je dépends de Dieu pour notre vie d'Église, pour ma croissance en tant que disciple de Jésus-Christ, pour que sa parole fasse son œuvre en moi par mes disciplines personnelles, mais aussi au travers des responsables que Dieu a choisis dans son Église et de ceux qu'il envoie pour annoncer sa parole. Et là, on arrive sur deux textes qui font plus polémique, pour être honnête, et qui viennent de la bouche de Jésus-Christ. Et ces deux textes se renvoient au même événement, on le voit dans Matthieu et dans Marc, où voilà ce que nous lisons dans Matthieu. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et dans l'évangile de Marc, il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Alors, c'est quoi qui est juste? Marc ou Matthieu? On fait un vote à main levée? Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans ces deux passages. Ouvrez les deux dans ces deux passages. Et on va juste faire une remarque sur ce qui est écrit. Alors, Matthieu 17, 21. Alors pour ceux qui ont les Bibles encore avec du papier, c'est plus facile, mais ça marche aussi avec les smartphones. Et Marc 9, verset 29. Et si on le relit donc dans Matthieu 7, verset 21, donc on est face à ce père qui a fait cette supplication à David, ah pardon, à Jésus-Christ, alors qu'il descend du mont de la Transfiguration et qu'il avait laissé 9 disciples plus loin. Il y a quelqu'un qui était venu aller voir ses 9 disciples, un père, pour prier, pour leur demander de chasser un démon. Et ils n'ont pas réussi. Et le verset 21, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier au verset 21 dans Matthieu 17, dans la manière dont il est écrit, par exemple, ou ce qu'il y a autour?
Il y a des
crochets carrés. Et ça veut dire quoi, des crochets carrés, dans nos Bibles?
Ce n'est
pas dans tous les textes, effectivement. En fait, ça manque dans la plupart des textes, voire dans les meilleurs manuscrits, mais il est présent quand même dans certains des bons manuscrits. Et Matthieu 9, Marc, merci, 9, verset 29, qu'est-ce que nous trouvons? Donc là, ici, il n'y est pas écrit, il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Est-ce que vous avez une petite note, quelque chose qui est renvoyé? Une note de bas de page? Eh ouais, vous avez une note de bas de page, n'est-ce pas? Voilà, et d'autres manuscrits rajoutent, et c'est pas dans tous les manuscrits, et par le jeûne. Et c'est vrai que là, juste, quand on voit ces crochets carrés dans nos Bibles, il faut juste que ça nous attire à la prudence dans notre étude du texte. Ou parfois, ça peut être, c'est des morceaux de phrases, des morceaux de texte qui ne sont pas entièrement sûrs. Et on a l'avantage de savoir, grâce à la comparaison de tous les textes qui nous ont été transmis. Et c'est vrai qu'on peut se poser, est-ce que c'est vraiment présent? J'aurais tendance, je vous avoue personnellement, de penser que, en fait, c'est pas original, ces crochets-là. Et donc ce texte est par le jeûne. Que Jésus dise que cette sorte de démon ne sort que par la prière, c'est effectivement, je pense, c'est plutôt l'original, et que ça a été rajouté et par le jeûne. Mais même si on l'accepte, et pas de problème pour l'accepter, on va juste relire maintenant à nouveau Matthieu 17, et on lit à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, donc Jésus, Pierre, Jacques et Jean, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit « Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous ?» Petite question, Jésus dit ça à qui? Ce petit compliment. Aux disciples, hein? Il ne le dit pas au Père, d'accord? Il le dit aux disciples, « Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» « C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, ça ne fait pas trop de sens, quelque part, de rajouter par le jeûne, par notre pratique, mais même si c'est présent, quel est le problème au final? C'est qu'ils n'ont pas jeûné, ils ont oublié de jeûner. Mince! Ah, il n'y avait pas écrit le mode d'emploi sur ce démon-là, sur sa tête. Il fallait jeûner. C'est pas ça que Jésus leur reproche, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il leur reproche? Race incrédule. Littéralement, sans foi. Absent de foi. C'est assez étonnant, n'est-ce pas? Il n'avait pas de foi à ce moment-là. Et le deuxième texte, au verset 19, verset 20, Jésus leur dit « C'est à cause de votre petite foi. » Mais ce qui est assez étonnant, c'est que juste après, il dit « Je vous le dis, si vous êtes de la foi, comme un grain de moutarde. » Donc ça veut dire, un grain de moutarde, c'est vraiment extrêmement petit, n'est-ce pas? Donc en fait, Jésus est en train de leur reprocher leur absence de foi, c'est qu'ils n'ont pas foi. Et il faut se rappeler que ces événements viennent après que Jésus ait envoyé ses disciples pour annoncer le royaume, et il les a envoyés notamment avec la puissance de chasser les démons. Donc ils l'ont fait, ils l'ont déjà accompli, pas de problème, dans le nom de Jésus-Christ, ils avaient pu chasser des démons. Mais maintenant, ils n'y arrivent pas, Et Jésus leur dit, c'est parce que votre foi est défaillante. Parce que vous n'avez pas de foi. Et certainement, c'est plutôt que le problème des disciples est qu'ils ont compté sur leur propre capacité. Ils ont compté sur leur propre force, sur leur propre habitude qu'ils avaient eue avant. On sait faire, pas de problème. Allez, casse-toi de là. Il part pas. Pourquoi ? Parce qu'on a fait d'après nos habitudes, plutôt que de se confier en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, ce qui vous a manqué, c'est la prière. C'est pas qu'il fallait faire une formule particulière ou dire des mots particuliers, mais ce qui vous a manqué, c'est la dépendance à Dieu. Et c'est pour ça que je dis, même si le jeûne est mentionné, c'est le jeûne dans le terme, de type dépendance à Dieu. C'est pas d'avoir une puissance supérieure. C'est pas d'avoir une force supérieure, c'est d'avoir une dépendance supérieure. C'est pas votre foi qui chasse le démon. C'est pas votre autorité qui chasse le démon. C'est pas votre jeûne qui chasse le démon. C'est Jésus-Christ seul qui chasse le démon. Et donc, il faut pas avoir foi en votre foi. Il faut pas avoir foi en votre jeûne. Il faut pas avoir foi en vos disciplines spirituelles. Mais il faut avoir foi en Jésus-Christ seul. Et la grande question, c'est en qui les disciples ont foi ici. Ils n'ont pas eu foi en Jésus-Christ. Absence de foi. Petite foi, foi défaillante. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous avez une petite foi, mais vraiment une vraie foi, pas une foi défaillante, une vraie foi, mais aussi petite soit-elle, ça marche. Pourquoi ? Parce que c'est l'objet de la foi qui a la puissance. C'est l'objet de la foi qui a l'autorité. C'est Jésus-Christ, l'objet de notre foi. Si même notre foi en lui est si petite, ça marche parce que c'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a la puissance sur toute chose, même sur Satan et sur ses démons. Donc notre foi peut être petite. Ce n'est pas un appel à une foi petite. Elle est appelée à grandir. Mais Jésus nous dit, il nous rassure là. Rassurez-vous, même si votre foi est si petite, en moi, l'autorité est suffisante. Mais surtout, n'ayez pas foi en vous. Donc le jeûne n'est pas une recherche d'autorité, n'est pas une recherche de puissance. Jamais, 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 en tant que croyants, nous avons de puissance en nous. Jamais nous avons de l'autorité en nous. La seule autorité que nous avons, c'est de croire en Jésus-Christ, qui, lui, a l'autorité. Et clairement, si on relit bien l'évangile de Matthieu à la fin, qu'est-ce que dit Jésus-Christ ? Toute autorité m'a été remise. C'est à lui et pas à nous. À cause de cela, nous pouvons dépendre de lui face à toutes nos luttes, face à tous nos combats. Et là encore, c'est un encouragement énorme face à Satan. Satan existe et parfois dans nos milieux chrétiens, on a tendance à oublier qu'il existe et les démons aussi. Et je ne vais pas entrer dans une peur ici, mais parfois on rentre quand même dans une psychose face à Satan et aux démons, comme quoi on est vraiment, il y a des grands troubles, il y a des choses qu'on ne peut rien faire. Mais Dieu nous dit non, non. Il existe, ne jouez pas avec. Il est puissant, il est plus puissant que vous, ne jouez pas avec. Mais Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ a vaincu, lui, à la croix. Alors ne soyons pas troublés et craintifs en tant que croyants. Face à nos maladies, si elles restent, c'est que Dieu a décidé qu'elles doivent rester. Face à nos épreuves, si elles restent, c'est que Dieu a décidé qu'elles doivent rester. Face à la mort, si elles restent, c'est que Dieu a décidé qu'elles doivent rester. N'ayons pas peur d'aller dans des endroits où des personnes font de l'occultisme, pas pour aller jouer avec. Mais celui qui nous garde est bien plus grand, bien plus puissant que Satan. On n'a pas à être dans la peur, dans la crainte. C'est Jésus-Christ, notre maître. Et n'ayons pas peur. Ne soyons pas étouffés. Et c'est vrai qu'on peut vite rentrer dans une compréhension que Satan a du pouvoir et de l'autorité sur nous. C'est niet, rien du tout. Il cherche à nous tenter. Ça, c'est vrai. Il est un lion rugissant. Ça, c'est vrai. Mais il reste un lion rugissant en chaîne. Il reste un lion rugissant qui est dans la main de Dieu. Et on n'a pas à avoir peur. Et si vous voulez reprendre par exemple ce que je vous dis par rapport à la question des maladies, voire de la mort, etc., relisez simplement les deux premiers chapitres de Job, où c'est impressionnant. Mais c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Et c'est Dieu qui dit à Satan, ok, lui, tu peux le toucher. Pas plus loin que ça. Tu peux aller aussi loin que ça, mais pas plus loin. Ce qui veut dire que quand nous sommes mal, nous ne sommes pas bien, voire même dans une dépression profonde, Dieu a dit, pas plus loin que ça. Mais c'est extrêmement rassurant, les amis. Parce que notre vie n'est jamais dans la main de Satan. Notre vie est toujours dans la main de Dieu seul, de Jésus-Christ seul. Dépendance à Dieu. Jeûne et attitude extérieure. Dernier point, donc, c'est quelles sont les attitudes extérieures ? Et l'Ancien Testament nous parle de plusieurs manifestations en lien avec l'humiliation, comme déchirer nos vêtements, répandre de la cendre, se raser la tête. Vous avez le droit, pas de problème, mais ne l'obligez et ne le forcez à personne. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, le prophète Joël nous appelle à une vie intérieure primordiale. C'est que secondaire de déchirer les vêtements. Mais le prophète Joël, Dieu, au travers du prophète Joël, nous appelle « Déchirez vos cœurs !» Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce qui compte, c'est votre attitude intérieure, c'est votre humiliation devant moi. Parce que c'est tellement facile, et on le sait, chacun d'entre nous, on sait à quel point c'est facile de déchirer des vêtements, n'est-ce pas ? C'est tellement facile de chanter et d'avoir le grand sourire le dimanche matin. C'est facile, c'est terriblement facile, n'est-ce pas ? Mais parfois, on a besoin de plus d'humiliation et d'humilité devant notre Dieu. Est-ce que notre péché nous fait souffrir encore ? Est-ce qu'on est mal face à nos erreurs ? Est-ce que la sainteté de Dieu nous fait peur encore parfois ? Ou alors, on s'en fiche. Et Jésus-Christ lui-même nous dira ceci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Ne montre pas que tu es un spirituel. Ça n'intéresse que toi et Dieu. Ça ne changera rien par rapport aux autres. Et en fait, si tu fais ça, certainement, ça veut dire que tu ne l'es pas. Parce que ce qui t'intéresse, ce n'est pas Dieu, c'est le regard des autres. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, ou dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Entre toi et Dieu seul. Même chose pour l'offrande, c'est vrai qu'on s'est levé. Et ce n'est pas mauvais. Mais dans ce même passage, Dieu nous dit, entre toi et Dieu seul. Et pour la prière, entre toi et Dieu seul. Alors on a d'autres passages qui nous appellent à prier ensemble, et aussi à jeûner ensemble sans ordre, mais on voit ces exemples du livre des Actes, n'est-ce pas ? Mais avant tout, rappelle-toi, c'est à Dieu que tu t'exprimes. C'est à Dieu que tu parles. C'est devant Dieu que tu te tiens. Et pas pour les autres. Pas pour le regard des autres. Donc, ne craignons pas et surtout, ne soyons pas hypocrites. C'est notre intimité. Dieu veut avant tout toujours notre intimité. Alors, c'est pas parce que Dieu veut notre intimité et notre relation avec lui, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas s'exprimer extérieurement. D'accord ? Mais avant tout, l'intérieur. L'extérieur ne sert à rien. Franchement, pour vous qui êtes mariés, si vous êtes beau et que vous sentez bon, mais que vous détestez votre femme, ça ne va pas marcher, n'est-ce pas ? Par contre, le jour où vous rentrez transpirant du travail, vous puez, c'est horrible, et que vous dites « ma femme, ma chérie, je t'aime », il y a des choses qui vous prennent dans vos bras quand même, n'est-ce pas ? Dans ses bras, n'est-ce pas ? Après, elle vous dira « va te doucher », mais bon. Donc l'extérieur est important. On est des êtres incarnés, on vit dans une chair, on a besoin d'exprimer ce qu'on vit, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas l'extérieur qui compte. L'extérieur n'exprime que ce que l'intérieur vit. Pour tout ce qui est question de régularité, d'occasion, on a plusieurs exemples dans la Bible et c'est à chacun de décider. On a des jeûnes qui vont de 40 jours dans la Bible à juste un repas qui est sauté. Sur la qualité aussi, on a des jeunes qui vont à absence de nourriture et de boisson, à, vous regardez dans Daniel, manger plus simplement. On ne va pas manger de viande, on ne va pas boire de vin, mais on va boire de l'eau et manger des choses beaucoup plus simples. Donc il y a tout un ensemble d'aspects extérieurs aussi qui sont à chacun de voir. Dernière chose, c'est que Paul, aussi en 1 Corinthiens, nous propose une sorte de jeûne. Et c'est le jeûne pour le couple, c'est un jeûne sexuel. Et il dit, voilà, décidez d'un commun accord pour vaquer à la prière de vous séparer l'un de l'autre. Donc c'est séparer sexuellement, hein, pas chacun dans son appartement. Et c'est juste pour la prière pendant un temps. Et de ce principe que Paul dit de faire un jeûne sexuel, parce qu'on ne peut pas penser à notre femme et penser à Dieu et prier en même temps, n'est-ce pas ? Ça va être un peu chaud. Mais Dieu nous dit, d'autres tirent le principe, pourquoi pas aussi un jeûne de la télé pendant un temps pour vaquer à Dieu, pour prier. Un jeûne technologique d'Internet, de portable, de console ou autre. Mais pourquoi ? Parce que mine de rien, ces petits appareils, cette télé, franchement, ça nous prend du temps, n'est-ce pas ? Combien de fois, plusieurs d'entre vous, et moi y compris, hein, on s'est dit, allez, juste le début, ok ? Juste le début du film, ou juste quelques messages, et toute la soirée est passée. Et après, on veut lire la Bible, mais on s'endort dessus, n'est-ce pas ? On veut prier, et le lendemain, on se réveille, ah tiens, j'étais en train de prier hier soir. Et parce que ça nous bouffe du temps. Et de la même manière où Paul nous dit, ok, mettez de côté parfois votre sexualité en tant que couple. Ou que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament disent, mettez de côté la nourriture ou votre confort pour prendre du temps pour Dieu. Parfois, il y a d'autres choses qu'on peut mettre de côté pour prendre du temps pour Dieu, pour exprimer que notre besoin vital est avant tout dans l'intimité avec Dieu et pas dans la consommation de nourriture ou d'autres activités. Alors, avec le jeûne, est-ce qu'on s'approche plus de Dieu ? Je conclue en disant oui et non. Non, si cela signifie que par notre jeûne, Dieu va plus nous aimer. Parce que, au travers de cela, on est en train de dire que ça dépend de ce que moi je fais. Non, si on pense que grâce à cela, Dieu sera plus enclin à répondre à nos demandes. Le jeûne n'est pas là pour forcer Dieu. Le jeûne n'est pas là pour être aimé de Dieu. Dieu ne va jamais plus nous aimer qu'à la hauteur du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est sur la base du sacrifice de Jésus-Christ que Dieu répond à nos demandes et à nos besoins. Et c'est ce que Paul nous rappelle aussi, si je me souviens bien, c'est dans Romains 8. Hein. S'il a donné Jésus-Christ pour nous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toute chose avec ? Mais le toute chose ne veut pas dire la Ferrari, la piscine et le tour du monde. D'accord ? Il va répondre à nos besoins. Mais oui, le jeûne nous permet de plus nous approcher de Dieu, si ça signifie que notre jeûne nous permet de consacrer plus de temps pour lire la parole, méditer sur qui est Dieu, et prier. En ce sens-là, au final, le jeûne est une discipline, comme toutes les autres disciplines que Dieu nous propose, non pas pour le gagner, mais une discipline que Dieu nous propose pour nous permettre de vivre ce qu'il nous donne, pour nous permettre d'expérimenter sa grâce et l'intimité avec lui. On ne gagne jamais Dieu par nos disciplines. Mais Dieu nous fait cadeau de nos disciplines, comme quand on se discipline d'amener notre femme au restaurant pour dire « je veux prendre du temps avec toi ». Parce que c'est toi qui comptes. Et c'est exactement la même chose avec toutes les disciplines que Dieu nous propose. Ce n'est pas pour nous embêter. Ce n'est pas pour nous forcer à quelque chose. Mais pour nous dire « je suis là, si tu veux, prends le temps ». Et ces disciplines, jeûne, prière, lecture de la Bible ou autre, sont là dans ce sens-là. Et c'est pour ça d'ailleurs... Je refais une petite pub pour les groupes de maison qu'on vous propose de lire le Nouveau Testament. C'est vrai, à grand flot, avec une petite discipline. Mais simplement cette discipline de se dire, Dieu veut vivre avec nous. Alors prenons le temps qu'il nous offre et le moyen qu'il nous offre. Je vous invite à prier.